I didn't see no preparedness at all. I mean, as soon as they heard that gunshot, they should have rushed in.
Ça demeure sérieux et il faut contenir tout cela le plus rapidement possible.
Je vais le retirer parce que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un consensus avec l'opposition.
Bonsoir. L'heure est au recueillement à Uvalde, au Texas, au surlendemain du massacre qui s'est hissé très haut dans le triste palmarès des pires fusillades de l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, ça aurait dû être un jour de réjouissance pour les élèves, la dernière journée d'école avant les vacances. Mais au lieu de ça, 21 croix blanches ont été plantées devant l'école primaire Robb, une pour chacun des 19 enfants et des deux enseignantes tués. L'heure est à la prière, oui, mais aussi au questionnement sur ce qui s'est réellement passé mardi et sur ce qui aurait pu permettre de l'éviter, peut-être. Sabrina Rivet est avec nous. Bonsoir, Sabrina.
Bonsoir, Noémie.
Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent aujourd'hui sur la rapidité d'intervention de la police dans les minutes qui ont précédé la tuerie.
Et d'ailleurs, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que le tireur serait resté au moins une quarantaine de minutes à l'intérieur de l'école primaire Robb, du côté de Uvalde. C'est ce que nous ont confirmé aujourd'hui les autorités qui ont fait un point de presse cet après-midi, pendant qu'on voit en fait des images de vidéos amateurs qui ont été tournées quelques minutes après les premiers coups de feu. Alors, on voit vraiment que c'est complètement le chaos à l'extérieur, des parents qui tentaient de rentrer à l'intérieur de l'école, évidemment, pour savoir si leur enfant avait été touché. On a eu droit également aujourd'hui à la chronologie des événements, je vais vous la dire rapidement. Donc, 11h28, le tireur qui venait en fait de percuter un truc avec sa voiture. Par la suite, il était près de l'école, a tiré, s'est rendu à l'intérieur de l'établissement scolaire. Ensuite, vers 11h40, c'est à ce moment qu'il est entré dans l'école avant de se barricader. Et c'est à 11h44 qu'il y a des policiers qui sont entrés dans l'école. Mais malgré le fait qu'il y a des policiers qui sont entrés dans l'école, bien, ça aurait pris au moins une heure avant que le tireur soit abattu. Alors, évidemment, ça pose beaucoup de questions. Pourquoi on n'est pas allé directement vers le tireur? Évidemment, il y a des gens, comme un conseiller municipal, qui a tenté de défendre un peu les services policiers. Et par la suite, bien, il y a un papa qui est complètement consterné par ce qui s'est passé. Lui qui a perdu sa fille pendant la tuerie, on peut les écouter.
They were there without proper equipment. I saw there 15, 20 minutes later, they came with their shields. Like, that should have been in their cars. Going in, not waiting 30, 45 minutes to get in.
When I got here, it was before 12. It was like 11:45, 11:48 in the morning. And there was already hundreds. I mean, there was police officers, border patrols. So I knew they were in there. We just had to control the people from going in there. That's why you saw the, you know, the police pushing the people back, because we don't want them going in there. But I was here.
And there
personally,
were police already in there.
They were already in there.
On ne peut pas imaginer ce que traversent ses parents en ce moment. Et là, après le choc, le deuil ne fait que commencer, Sabrina.
Ouais, c'est vraiment pas une journée facile aujourd'hui pour les enfants qui se trouvaient à l'école, les parents qui ont perdu des enfants. Et aussi pour la communauté, on nous dit que c'est une petite communauté de Cicéré. On parle de 16 000 habitants du côté de Uvalde. Tu le disais, on le voit à l'écran, il y a des croix qui ont été déposées, des gerbes de fleurs près de l'école primaire Robb. Et d'ailleurs, on a appris aujourd'hui que le mari d'une des enseignantes tuée est décédé. C'est que selon NBC News, il aurait été pris d'un malaise après avoir déposé des fleurs sur un lieu de recueillement. Alors, c'est complètement indescriptible d'avoir perdu un enfant ou d'avoir assisté à ça. Et d'ailleurs, on peut aller écouter une jeune fille qui se trouve à l'école et qui a entendu le tireur. On l'écoute.
It was very scary. We didn't know. At first, we didn't know what was happening, but then we realized it. Everyone started panicking.
My heart just breaks for them and for everybody. We're such a small community that it really is. Like everybody knows everybody here.
Et simplement dire à quel point ça touche vraiment tout le monde. Il y a l'épouse du prince Harry, Meghan Markle, qui est allée faire un tour aujourd'hui sur les lieux de cette tuerie. Elle est allée se recueillir et rendre hommage aux jeunes enfants qui ont été tués dans cette tuerie.
Merci, Sabrina.
Ça fait plaisir.
Le Québec prend des mesures pour éradiquer la variole simienne. 25 cas ont été confirmés au Québec depuis la mi-mai, presque tous dans le Grand Montréal, et une trentaine d'autres cas suspects font l'objet d'une enquête. Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, fait état d'une situation préoccupante sans pour autant être alarmante. Louis-Philippe Bourdeau a assisté à son point de presse ce matin. Bonsoir, Louis-Philippe.
Bonsoir, Noémie.
Donc, des vaccins pourront être administrés dès demain, mais de manière très ciblée.
Ouais, pas question d'une campagne de vaccination à grande échelle. On va y aller vraiment de manière ciblée, tu l'as dit, notamment auprès des gens qui ont eu des contacts
étroits avec des cas confirmés et après recommandation de la santé publique. Idéalement, ça devrait se faire dans les 4 jours après ce contact pour avoir un maximum d'efficacité. On nous dit que le Québec a reçu environ 1000 doses de vaccins. On espère que ce sera suffisant pour contenir l'agrégat. C'est le souhait du moins de la santé publique. On rappelle par contre aujourd'hui qu'il faut rester assez alerte aux symptômes. Et on vous les rappelle ce soir comme l'a fait aujourd'hui la santé publique. Donc, lésions cutanées, à la bouche, aux organes génitaux, fièvre, sueur froide, sueur nocturne. Période d'incubation entre 5 et 7 jours et les symptômes 2 à 4 semaines. Pour le moment, il y a un autre cas au Canada, c'est en Ontario. Mais je rappelle qu'il y a d'autres pays qui vivent la même chose que le Québec, notamment l'Espagne. Donc, le docteur Boileau qui a voulu se faire rassurant aujourd'hui.
Je réinsiste, nous ne sommes pas devant une nouvelle maladie qui est apparentée au coronavirus. Là, on n'est pas dans une situation où il y a une contagion très vive et importante qui va se passer très rapidement, mais ça demeure sérieux et il faut contenir tout cela le plus rapidement possible.
On a aussi lancé un appel aujourd'hui à ne pas stigmatiser les personnes infectées.
Autant au niveau fédéral que provincial, parce que en effet, la majorité des cas, ce sont des hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes. Mais on le dit, on le répète, la maladie ne cible pas un seul groupe de la société. Ça peut toucher n'importe qui a des rapports de proximité prolongés avec une personne. Et là, ça s'échange par fluide corporel, par gouttelette même. Donc, il ne faut pas stigmatiser parce qu'en le faisant, bien, on éloigne les gens du système de la santé. On réduit les risques, l'impact de la prévention. Donc, voici à ce sujet la Dr Bergeron.
La stigmatisation, c'est contre-productif là, dans nos objectifs de santé publique. On veut que les gens puissent se prévaloir de soins. Donc, vraiment, la stigmatisation, c'est un grand enjeu là, pour essayer à enrayer la maladie. On essaie d'y lutter. Puis, c'est important de comprendre, là, c'est que notre ennemi, c'est le virus. Ce n'est pas les personnes qui sont affectées.
Je termine en disant qu'il y a un cas possible chez un mineur qui aurait eu des contacts à l'école. On dit en ce moment, c'est un cas isolé. Il y a une étude épidémiologique, une enquête épidémiologique qui est en cours. Et on ne va pas identifier les lieux de transmission, justement, bien, pour éviter la stigmatisation.
Merci beaucoup, Louis-Philippe.
Plaisir.
J'accueille l'épidémiologiste Nima Machouf parce qu'il nous reste plein de questions. Bonsoir, Mme Machouf.
Bonjour, Noémie.
Alors, ce qu'on comprend, c'est que le Québec est la seule... Bon, il y a un cas en Ontario, mais sinon, le Québec est la seule province au Canada où il y a autant de cas confirmés, 25 à ce jour. Comment ça se fait?
Pour l'instant, c'est juste le Québec qui est essentiellement touché. Ça se fait parce que le virus est arrivé par des voyageurs qui sont venus au Québec. Alors, ce n'est qu'un concours de circonstances. Ça aurait pu être n'importe où ailleurs. Heureusement, pour l'instant, ce qui est bien, c'est que les personnes qui étaient infectées sont allées consulter. Et ça, c'est extrêmement important pour éventuellement éviter qu'elles se répandent au reste de la communauté.
Mais parce que c'est ça la grande crainte en ce moment, c'est qu'il y ait une propagation, que ça finisse par se transmettre comme une traînée de poudre, parce qu'on sait qu'on peut être contagieux même si on n'a pas de symptômes.
Oui. Alors, ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que 5 jours avant que les symptômes commencent à se manifester, on peut être infectieux quand même. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que c'est comme si le virus y est avancé un peu dans le noir, sans nous aviser. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un virus qui prend quand même des contacts très rapprochés pour qu'il se répande. Il se répand par des contacts de peau à peau directs. Avec les lésions, ça se répand aussi. Le virus, il est présent dans les liquides corporels, donc dans le sang, dans les autres liquides, la salive, les spermes et tout ça. Alors, il faut faire attention lors des contacts étroits qu'on a avec les gens. S'il est présent dans notre salive, quand on tousse ou quand on éternue, il peut se répandre, mais ça se répand dans des gouttelettes. C'est pas dans des aérosols comme la COVID. Donc, ça ne se répand pas dans l'air de manière générale. Mm-hmm. Si on porte un masque, si on garde une distance, on peut éviter sa transmission avec la salive. Sinon, le contact de la peau, il faut vraiment l'éviter, surtout pour les personnes qui ont des lésions.
L'Agence de la santé publique du Canada confirme avoir envoyé 1000 doses du vaccin contre la variole humaine au Québec. Est-ce que ce sera suffisant, à votre avis, pour stopper net la propagation de la variole simienne?
Pour l'instant, si les cas, on dit qu'il y en a 25 qui sont confirmés, une trentaine qui sont en investigation. Si pour l'instant, ça reste contraint comme ça, on pourrait l'éviter avec ce nombre de vaccins, parce que le vaccin, il va être donné uniquement aux personnes qui ont eu des contacts étroits avec les cas avérés. Éventuellement, on pourrait le faire. C'est pour ça que c'est très important d'en parler, pour que les gens soient conscients que cette infection est en circulation. C'est pas parce que on la trouve un peu éloignée ou c'est pas encore très, très répandu qu'elle est absolument banale. Non, il faut en être... il faut s'en occuper sans être nécessairement effrayé, parce que pour l'instant, il n'y a pas lieu à être effrayé, heureusement. C'est très contraint, mais il y a quand même beaucoup plus de cas qu'on a vu dans les 50 mm-hmm. dernières années.
Alors, mais donc, est-ce que ça pourrait être une bonne idée de se procurer davantage de vaccins et d'élargir l'administration là, du vaccin au-delà des personnes qui ont eu des contacts étroits?
Pour l'instant, la santé publique a décidé, ou en fait, c'est l'organisme qui gère les vaccins et à qui on va le donner, dont la Dr Quach est responsable, qui décide à qui on administre le vaccin. Pour l'instant, l'épidémie peut évoluer, mais pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller très vaste parce que c'est quand même contraint. C'est quand même resté dans un cercle restreint et ça ne s'est pas encore répandu largement. Mm-hmm. On ne parle pas encore de transmission communautaire.
Bon, donc pour l'instant,
c'est suffisant, mais probablement avec l'évolution de ce nouveau, ce nouveau problème de santé qui est maintenant à nos portes, la santé publique est très, très alerte et va faire le suivi.
Parfait. Merci beaucoup, Nima Machouf, d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Faites attention, s'il y a des lésions, il faut aller voir le médecin.
C'est bien noté. On vous a parlé hier du projet de loi 38 qui élargit l'accès à l'aide médicale à mourir au Québec. Eh bien, moins de 24 heures après l'avoir déposé, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a reculé sur l'un des aspects controversés de ce projet de loi. Je retrouve Simon Bourassa à Québec. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Noémie.
Donc, sous la pression de l'opposition, Christian Dubé a finalement retiré les articles du projet de loi qui rendaient admissibles les gens qui souffrent d'un handicap neuromoteur grave.
Exactement. Donc, il y avait deux aspects importants dans ce projet de loi 38. Donc, la possibilité de faire une demande d'aide médicale à mourir anticipée pour les gens qui sont atteints d'une maladie grave incurable qui mène à l'inaptitude. Le meilleur exemple, bien, c'est la maladie d'Alzheimer, ou la possibilité de demander l'aide médicale à mourir pour les personnes qui souffrent d'un handicap neuromoteur. On parle de quadriplégie, paralysie cérébrale. Et il y avait un jugement qui avait été établi dans cette affaire-là, le jugement Truchot en 2019. Donc, un homme lourdement handicapé qui a gagné en cours, donc qui rend cette chose possible selon la loi fédérale. Hier, le ministre, avec son projet de loi, disait on vient de régler ça au Québec puisqu'on le permet, nous aussi, maintenant. On est sur la même longueur d'onde que le jugement au fédéral. Pour les oppositions, ça va beaucoup trop vite. Les consultations sur l'élargissement de la loi portaient pas sur l'aspect de l'handicap neuromoteur. Donc, il faut prendre le temps d'entendre les gens là-dessus, selon eux. Puis, bien, il reste, quoi, deux semaines à la session parlementaire. Donc, je voulais entendre les partis d'opposition suivis du ministre de la Santé.
En une phrase... Dans un projet de loi, on ouvre toute grande la porte vers cet aspect d'handicap neuromoteur.
On invite le ministre, si on est sérieux sur ce projet-là, d'enlever cette nouvelle critère qui n'était aucunement discuté avec les Québécois, qui sont les plus touchés pour commencer.
Il y a deux articles qui sont spécifiques au handicap neuromoteur, donc je vais le retirer parce que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un consensus avec l'opposition et de procéder au projet de loi dans les prochains jours.
Par ailleurs, le ministre Dubé a aussi confirmé que les médecins de famille avaient voté en faveur de l'entente de principe qui est intervenue avec leur fédération pour améliorer l'accès aux soins de première ligne.
Oui, c'est un des principaux chevals de bataille du ministre de la Santé, l'accès aux soins de première ligne, désengorger les urgences, puis que les Québécois voient un professionnel de la santé dans des délais raisonnables. Pour ça, bien, il y a le projet de loi 11, qui d'ailleurs devrait être adopté au cours des prochains jours. Mais il fallait aussi la collaboration des médecins omnipraticiens, des médecins de famille. Donc, une entente de principe qui est survenue au début du mois, elle a été votée par la majorité des membres de la FMOQ aujourd'hui. Et il y a trois principes principaux dans cette entente, donc une inscription progressive de centaines de milliers de patients qui sont présentement sur la liste d'attente du fameux guichet d'accès aux médecins de famille. Objectif ambitieux, d'ailleurs, le ministre voudrait qu'on en inscrive 250 000 de ces patients d'ici le 31 juillet, puis avoir accès à un médecin de famille entre 36 et 72 heures aussi, puis le fameux déploiement du guichet d'accès à la première ligne, le GAP. Donc, ça va permettre cette entente avec les omnipraticiens de mettre en place ces mesures.
Merci beaucoup, Simon.
Au revoir.
Je reçois la députée du Parti québécois et marraine de la première loi sur l'aide médicale à mourir au Québec, Véronique Yvon. Bonsoir, Madame Yvon.
Bonsoir, Madame Mercier.
Donc, vous aviez fortement critiqué hier l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes d'un handicap neuromoteur qui se trouvait dans la version originale de ce nouveau projet de loi. Le ministre Dubé a reculé sur ce point aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfaite de cet ajustement?
En fait, je pense que si on voulait avoir une petite chance d'adopter le projet de loi dans les délais extrêmement courts qui nous sont impartis pour ce qui est de la demande anticipée, c'était la chose responsable à faire. Moi, je n'ai pas d'objection à ce qu'on débatte de tout au Québec. Je pense que c'est sain de débattre des autres enjeux, y compris de la question du handicap. Mais on ne pouvait pas arriver avec un tout nouveau débat à 2 semaines de la fin de session et de penser qu'on était capable de tout débattre ça en si peu de temps, sans aucun débat préalable, bien entendu.
Le ministre Dubé dit qu'il se fie à l'avis du Collège des médecins sur le sujet, qui est d'accord avec l'inclusion des personnes atteintes de handicap neuromoteur dans les paramètres de l'aide médicale à mourir. À vos yeux, c'est pas suffisant?
Non, c'est pas suffisant. Moi, ce que je veux entendre d'abord et avant tout, c'est les associations qui représentent les personnes handicapées, elles-mêmes. Est-ce que c'est une demande qu'elles font à la société de pouvoir avoir cette possibilité-là? Jusqu'où? Pour quel type de handicap? Où devons-nous tracer la barre? Est-ce qu'il y a des enjeux éthiques d'un jeune, par exemple, de 18 ans qui, à la suite d'un accident sportif, devient paralysé des deux jambes? Est-ce qu'il peut le demander? Est-ce qu'il doit avoir un délai? Comment on doit encadrer ça? Est-ce qu'on doit lui donner la chance de s'adapter à sa nouvelle vie? Est-ce qu'il y a des messages contradictoires qui peuvent être portés? Donc, moi, je veux entendre les gens qui sont directement concernés. Et c'est pas un enjeu qui a été porté au cours des dernières années de manière très forte sur la place publique, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on doit d'abord se tourner vers les personnes directement touchées. Je comprends qu'il n'y a pas de consensus. Moi, je veux entendre ces personnes-là. Je pense que c'est notre responsabilité. C'est surtout qu'au Québec, on s'est toujours donné cette manière de procéder, de faire le débat correctement, de manière transpartisane, mais aussi avec la population. Et là, ça n'a pas été fait du tout. Et donc, c'est pas d'être contre le débat, c'est de se dire qu'il faut se donner le temps de bien faire les choses.
Et si on revient à le cœur de ce projet de loi, c'est-à-dire notamment de pouvoir faire des demandes anticipées. Donc, pour ceux qui ont encore des doutes sur le bien fondé de cette mesure-là, est-ce qu'il y a lieu de craindre que... Parce que si on est atteint de l'Alzheimer, mais qu'on est encore apte à prendre ce genre de décision, comment est-ce qu'on sait si on trouvera encore que la vie vaut la peine d'être vécue quand on sera inapte? Comment est-ce qu'on peut prendre cette décision-là alors qu'on n'est pas dans la situation?
C'est tellement la question fondamentale et sur laquelle on s'est penché pendant des heures et des heures et des heures, sur laquelle on a questionné les experts et les groupes qu'on a entendus et les personnes touchées aussi qu'on a entendues. Et vraiment, ce qu'on a proposé dans le rapport et qu'on espère pouvoir vraiment retrouver dans le projet de loi, c'est un encadrement très strict. Donc, vous ne pouvez pas juste dire, moi, vous savez, si je dois me retrouver en CHSLD, si je ne reconnais plus un proche, je veux avoir l'aide médicale à mourir. Vous pouvez à l'avance exprimer vos souhaits, mais le moment venu, tous les critères de la loi vont devoir être rencontrés, y compris celui d'avoir des souffrances contemporaines. Au moment où vous n'êtes plus apte, c'est effectivement, comme vous le soulevez très bien, vous pouvez ne pas souffrir. Vous pouvez être dans un état qui fait en sorte que vous n'êtes pas dans des souffrances, que, je ne sais pas, la zoothérapie vous apporte du confort, que vous êtes capable encore de chanter, vous avez des moments de bonheur. Donc, le critère de la souffrance ne serait pas rencontré. Donc, ça, c'est très important de rassurer les gens que ça ne sera pas un bar ouvert pour n'importe quelle circonstance. Les critères de la loi vont continuer à s'appliquer, bien entendu.
Et donc, on comprend aussi que pour le moment, les personnes atteintes de troubles de santé mentale sont exclues. Peut-être que ce sera le prochain débat. Merci beaucoup, Véronique Yvon, pour votre participation à l'émission ce soir.
Merci beaucoup à vous.
Plus de 46 000 foyers sont toujours sans électricité au Québec, 5 jours après les violents orages. Le premier ministre Justin Trudeau a d'ailleurs visité aujourd'hui les zones dévastées. Il s'est rendu tout d'abord dans un centre communautaire de la région d'Ottawa pour y rencontrer des familles touchées par la tempête. Par la suite, il a fait de même dans une épicerie de la région de Gatineau. Guerre en Ukraine, les bombardements s'intensifient dans la région de Kharkiv. Des attaques qui ont tué des civils. On fait le point avec Étienne Fortin-Gauthier au retour. Faisons le point sur la guerre en Ukraine. Les combats s'intensifient dans l'est du pays. Et puis ce soir, on vous présente un moment qui résume bien le quotidien des citoyens de la région. Une dame donnait une entrevue sur la privation de nourriture, mais elle a dû s'interrompre. Regardez.
Nous avons dû s'interrompre. Nous avons dû s'interrompre.
Ça s'est passé ces dernières heures autour de Kharkiv. Cette ville et toute cette région, en fait, ont été la cible d'intenses bombardements aujourd'hui. Étienne Fortin-Gauthier a les détails. Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, Mémie.
Donc, à Kharkiv, il y a des civils qui sont morts.
Oui, 7 citoyens, au moins 7 selon le dernier bilan qui vient de sortir. 7 citoyens morts, 17 blessés, dont des enfants. Kharkiv, 2e plus grande ville de l'Ukraine. En fait, dans les dernières semaines, c'est le retour à la vie normale là-bas. Le métro avait redémarré, on en a parlé en début de semaine. Là, on va à nouveau le rendre disponible comme abri contre les bombardements. Le maire dit que c'est une surprise et qu'il relève le niveau d'alerte. Il faut dire que les Russes aujourd'hui ont diffusé de nombreuses vidéos où on voit justement de nouvelles images de tirs de missiles vers l'Ukraine. Donc, ça fait vraiment craindre le pire dans cette ville-là où il y avait une certaine normalité qui était revenue dans les derniers jours.
En fait, on assiste en ce moment à une vaste offensive des Russes dans une grande partie de l'est du pays.
Oui, absolument. Les Russes ont bombardé en fait 41 secteurs du Donetsk et de Luhansk au cours des dernières heures. Dans un tas de villes, il y a eu de nouveaux bombardements. On a vu des images de bombardements, notamment ici, là, dans la ville de Pokrovsk. Il y a maintenant aussi 110 bataillons russes en Ukraine. Ça, c'est des milliers de soldats en plus qu'il y a quelques semaines seulement. Donc, on voit les Russes poursuivre l'offensive avec beaucoup d'effectifs. L'Ukraine qui a diffusé également une vidéo, on la voit actuellement, où on voit des explosions de type turbo-barrique, donc des armes incendiaires. Vidéo diffusée par l'Ukraine aujourd'hui qui dit qu'on a besoin encore davantage d'armes pour se défendre et contre-attaquer face aux Russes.
Puis on sait que la Suède et la Finlande veulent adhérer à l'OTAN depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, mais ça pourrait être plus compliqué que prévu.
Oui, ils voulaient sortir de leur neutralité historique, mais là, on apprend depuis quelques jours que la Turquie pourrait opposer son veto, et ça provoque un tas de réunions ces dernières heures en Turquie. La Turquie dit, en fait, accuse la Finlande et la Suède d'abriter des militants indépendantistes violents du Kurdistan. Ça, c'est une région de la Turquie qui est contestée. Ça crée tout un brouhaha chez les membres de l'OTAN qui veulent essayer de convaincre la Turquie de changer d'avis. Emmanuel Macron, qui a parlé aujourd'hui au président turc, dit qu'il faut respecter le choix souverain de la Suède et de la Finlande. Mais on voit que tout est complexe et même sur cet enjeu-là, ça s'entrecroise les questions de géopolitique et les intérêts de tous et chacun. Là.
Merci beaucoup, Étienne. On se retrouve plus tard. Le débat d'hier soir à Laval entre les aspirants à la chefferie du Parti conservateur du Canada a donné lieu à quelques échanges corsés et à beaucoup de maladresses. C'était le seul affrontement de cette course en français et la plupart des candidats ne maîtrisent manifestement pas la langue. Notre collaborateur Christopher Nardi a regardé le débat pour nous. Bonsoir, Christopher.
Bonsoir, Némi.
Mais la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que les candidats se soumettent à de telles souffrances s'ils ne parlent pas français?
Ben écoute, c'est parce que sinon, ça va leur coûter 50 000 $. C'est l'amende que le parti impose à tout membre ou tout candidat à la chefferie qui ne se présente pas à un des deux débats officiels. Et comme tu as dit, Noémie, il y avait 6 personnes sur scène, Pierre Poilievre, Patrick Brown, Jean Charest, Scott Aitchison, Roman Baber et Liz Lewis, mais en effet, il n'y avait que trois personnes qui débattaient véritablement. Et ce qu'on a vu hier soir, Noémie, c'était ce qu'on a, Pierre Poilievre a appelé une petite coalition contre lui, donc Patrick Brown et Jean Charest, qui s'en sont pris allègrement contre celui qu'on croit meneur de la course, Pierre Poilievre, et vice-versa. Tandis que les trois autres, bien, on se disait, le français n'était pas au rendez-vous, et donc on s'est vraiment limité à des messages qui étaient préécrits sur papier, qu'on lisait religieusement, et qui répondaient, j'avoue, rarement à la question du modérateur. Alors, c'était un débat, finalement, de trois personnes, avec trois autres qui étaient là être sur scène.
Aïe, aïe, méchant malaise. Le débat était au Québec, donc il a été forcément question d'enjeux spécifiquement québécois, la loi sur la laïcité, la loi 21 notamment, et la loi 96 sur la protection du français.
Effectivement. Et les deux ont fait beaucoup jaser, surtout par l'opposition pour la plupart des candidats à ces deux lois-là. Alors, on peut commencer avec cette nouvelle loi 96. Alors, la plupart, bien, à vrai dire, tous les candidats qui ne parlent pas le français s'y sont opposés fortement, ainsi que Patrick Brown, qui semblait s'enligner. Mais ce qu'on n'a pas entendu était une position de Jean Charest ni de Pierre Poilievre sur ce qu'il ferait avec cette loi-là, si et ou presque quand qu'elle se rend en Cour suprême, s'il la contesterait ou pas. La loi 21, bien ça, ça a été un autre dossier. Évidemment, on venait d'apprendre que le gouvernement Trudeau comptait, lui, participer à la contestation contre cette loi-là en Cour suprême. Et donc, M. Brown et M. Charest en ont profité pour attaquer M. Poilievre, qui a, à date, refusé de faire connaître sa position sur cette contestation-là. Et finalement, ils ont réussi, dans un moment assez fort du débat, à l'arracher une nouvelle position, et c'est celle qu'il ne mettrait pas fin à cette contestation annoncée par le gouvernement Trudeau. On peut écouter un extrait de cette lutte-là.
La question est la suivante à M. Poilievre. Il a dit au Québec que si la loi 21 allait, il a dit ça en français, allait à la Cour suprême du Canada, exactement, son gouvernement n'allait pas intervenir. Bien, je m'excuse, il n'a jamais dit la même chose au Canada anglais. Alors, êtes-vous bilingue ou vous ne l'êtes pas?
Bon, c'est la grande question. Et qui sort grand gagnant de la soirée, selon toi, Christopher?
Moi, je te dirais, Noémie, de par son excellente maîtrise du français comparé à ses adversaires, c'était inévitablement Jean Charest qui allait sortir grand gagnant de ce débat-là. Et je pense que cette prédiction-là a tenu le coup. Évidemment, il était en terrain amical, étant au Québec, et on pouvait l'entendre par les cris de la foule qu'il avait vraiment rempli la salle de supporters. À plusieurs moments, même le modérateur a dû dire aux gens qui scandaient le nom de Charest de se taire parce qu'ils étaient du temps du débat. Et comme je disais hier à nos auditeurs, Noémie, Charest n'avait pas vraiment le choix que de se démarquer dans ce débat-là. Pierre Poilievre semble vraiment avoir pris une belle avance dans les signatures et dans sa popularité dans le reste du pays. Donc, si Jean Charest ne réussit pas à se démarquer et rafler la plupart des sièges du Québec lors du vote le 10 septembre prochain, bien, sa campagne est essentiellement morte dans l'œuf. Mais là, pour Pierre Poilievre, ben lui, je pense qu'il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Il a été encore une fois la cible principale de toutes les attaques de tous ses adversaires. Et malgré tout, il a réussi quand même à faire plusieurs points contre M. Brown et M. Charest, notamment lorsqu'il a encore questionné ce dernier sur son travail avec la firme Huawei, en même temps que les deux Michael étaient emprisonnés en Chine. On voyait un Jean Charest visiblement mal à l'aise avec cette question-là. Alors, c'est ça. Je pense que M. Charest en sort très peu écorché. M. Poilievre a tiré son épingle du jeu. Maintenant, on va voir qui a réussi à signer le plus de nouveaux membres lors de l'échéance. Ben, la semaine prochaine.
Fort intéressant. Merci beaucoup, Christopher.
C'est Noémie.
L'acteur américain Ray Liotta est décédé en République dominicaine à l'âge de 67 ans. Il complétait le tournage d'un film là-bas. Il serait mort dans son sommeil, selon des médias américains. Ray Liotta a joué dans plusieurs films mythiques, notamment dans Goodfellas et Field of Dreams. Deux jours après l'adoption de la loi 96 à l'Assemblée nationale qui renforce la loi 101, la contestation se poursuit. Une manifestation est en cours à Montréal et ma collègue Fanny Lachance-Paquette est sur place. Bonsoir, Fanny.
Bonsoir, Noémie.
Qu'est-ce que les manifestants dénoncent exactement?
Bien, ce sont des gens qui sont tristes et qui sont en colère. Les gens qui sont là aujourd'hui, ce sont des gens qui sont sous le collectif Québécois-Québécoise contre le projet de loi 96. C'est la deuxième fois qu'il y a une manifestation de genre qui est organisée en environ 10 jours. Mais cette fois-ci, c'est la première depuis que le projet de loi est adopté. Alors, ça regroupe plusieurs communautés derrière moi. Vous allez voir, les revendications sont aussi assez nombreuses. On a peur de perdre certains acquis. Hein, des acquis par rapport aux services qu'on peut avoir dans le réseau de la santé, réseau judiciaire aussi, par rapport à l'éducation, parce qu'on sait qu'il va y avoir, entre autres, des quotas au cégep et des obligations de cours en français. Et ce qu'on déplore, bien, c'est de ne pas avoir le choix. Parce qu'avant, on avait ce choix-là, de pouvoir être servi en anglais, de pouvoir aller à l'école en anglais. Et ce que plusieurs des gens qui sont ici nous ont dit, bien, c'est qu'on n'a pas envie d'être vus comme des citoyens de seconde zone. Alors, j'en ai discuté avec Québec Community Groups Network, qui organise la manifestation, savoir quel message on voulait passer aujourd'hui.
Je pense qu'au gouvernement, on veut dire que les droits humains vont avant tout. C'est sûr que c'est important de protéger la langue française. C'est aussi important de protéger des langues autochtones, parce que c'est vrai que l'anglais est partout. Mais par contre, l'anglais est quand même une langue qui est la langue seconde ou langue première de beaucoup de monde. Il n'y a pas de raison d'aller contre les droits humains.
Et puis, Fanny, là, il y a des opposants à la loi 96 qui s'organisent pour contester la nouvelle loi devant les tribunaux.
Oui, ils reçoivent depuis les derniers jours de plusieurs organisations qui disent effectivement qu'elles vont s'organiser, qu'elles vont vouloir contester la loi 96 devant les tribunaux. Et j'en discutais aujourd'hui avec un professeur de droit de l'Université Laval qui me disait qu'il va y avoir une espèce de course, là, parce qu'il existe du financement du fédéral pour contester de nouvelles lois. Alors là, tout le monde va vouloir avoir accès rapidement à ça. Mais ce qu'il me disait, c'est qu'on devra trouver des cas précis, concrets, de gens qui sont blessés, qui sont touchés directement par cette nouvelle loi 96. Et selon lui, bien, ça ira peut-être pas très loin, finalement, les contestations judiciaires.
Les mesures qui touchent quand même beaucoup de gens et qui suscitent beaucoup d'inquiétudes dans la communauté anglophone, qui ont, à mon humble avis, assez peu de chances de déboucher sur de longues sagas judiciaires. Assez peu de chances de succès, d'ailleurs. Je pense à toute la question très sensible du droit à avoir des services en anglais. On est plus dans un débat d'interprétation. Les inquiets voient un principe qu'ils trouvent menaçant là, et ils sont un peu aveugles à l'endroit des exceptions.
Merci à Fanny. En Ontario et en Colombie-Britannique, les travailleurs de la construction sont surreprésentés parmi les gens qui meurent d'une surdose d'opioïdes. Au Québec, on n'a pas de chiffres précis sur ce fléau. Par contre, la CSN Construction forme des intervenants sur les chantiers pour aider leurs confrères et leurs consœurs en détresse et elle commence à prêter attention à cette situation, comme nous le raconte Anaïs El-Boujdani.
En fait, le but, c'est de former l'équipe de la CSN Construction à intervenir avec des gens, des travailleurs et travailleuses qui peuvent être aux prises avec des problèmes de toxicomanie, de jeu, d'alcoolisme, d'agir à titre d'intermédiaire comme courroie de transmission entre le travailleur, la travailleuse et les ressources disponibles. Puis c'est beaucoup d'écoute, d'empathie, puis de diriger les gens comme tel.
Un des éléments très importants de votre rôle d'intermédiaire, c'est de toujours assurer une neutralité et un rôle d'intervenant. Le rôle en prévention, bien, c'est celui d'être porteur d'un message, évidemment, dans l'industrie.
Pourquoi c'est important pour vous d'assister à cette formation aujourd'hui?
Bien, pour pouvoir aider des confrères si c'est possible et pouvoir être une ressource sur les chantiers de construction.
Vous ressentez qu'il y a un besoin là, pour ça?
Certainement. Depuis en plus 2 ans en plus, c'est sûr que ça a changé, c'est que la santé mentale, puis les problèmes de consommation, c'est sûr aussi.
Les gens qui sont aux prises avec des problèmes de jeu, de toxicomanie, d'alcoolisme, souvent ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de bouées de sauvetage, ils ont besoin d'être entendus, d'être orientés. Puis je pense que ça a toute sa pertinence parce que d'année en année, on a de plus en plus de gens. Puis c'est pas nécessairement évident de s'ouvrir, de communiquer ses malaises, ses problèmes comme tels. Donc d'en parler, de plus en plus, de décloisonner tout ça. Et ça fait en sorte que les gens s'ouvrent de plus en plus puis vont vers les ressources nécessaires.
Là, présentement, on traverse une crise au niveau des opioïdes qui est plutôt manifeste dans l'Ouest.
Tant pour le naloxone.
Pourquoi?
la semaine prochaine, là, on va...
On verra l'écrit au pire. Là.
On va checker avec la SNES. Ça va être où il loge ou dans les programmes de prévention.
De pas, mettons, consommer le soir et puis arriver sur le chantier, pas concentré, puis qui peuvent se blesser dû à des parties ou autres le soir, ben nous autres, ça fait notre plaisir de pouvoir être mieux informés pour revenir à leur aide.
Est-ce qu'il y a une réticence ou un peu un stéréotype de se dire « moi, je suis en construction, fait qu'il faut que je sois tough ».
Pas nécessairement. Il y a peut-être eu des vieilles mœurs et coutumes qui étaient de la sorte, mais je dirais que de plus en plus, c'est bien vu de s'ouvrir.
Si ça fait 12 ans que vous faites ça, c'est que vous croyez au programme, que vous voyez que ça fait des bonnes choses.
Ça peut être une déchéance quelconque vers une toxicomanie, puis ils sont rendus vers le bas-fond. Puis sincèrement, ça peut être très émouvant. Ça vient nous chercher, puis... Ces gens-là ont vraiment besoin d'aide, puis c'est absolument nécessaire que les intermédiaires soient mis de l'avant.
20 ans après leur création, les groupes de médecine familiale, les GMF, n'auraient toujours pas facilité l'accès à un médecin de famille au Québec, selon une nouvelle étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. C'était pourtant l'objectif de ce modèle mis sur pied par un certain François Legault, qui était ministre de la Santé à l'époque. On en discute avec le docteur Simon-Pierre Landry, il est médecin de famille à Mont-Tremblant et médecin à l'urgence de l'hôpital de Sainte-Agathe. Bonsoir, docteur Landry.
Bonjour, Noémie.
Donc, l'IRIS calcule que le nombre de patients par médecin dans les groupes de médecine familiale n'a augmenté que de 2 % entre 2014 et 2021. Puis, au-delà de cette étude-là, ouais. On sait qu'il y a presque 1 million de Québécois qui sont en attente d'un médecin de famille en ce moment. Si les GMF devaient servir à donner un accès aux médecins de famille aux Québécois, force est de constater que ça n'a pas marché.
En fait, il ne faut pas faire le lien entre les GMF et la situation qui se passe actuellement. Il y a d'énormes problèmes dans le système de santé, on en convient, c'est clair et certain. Mais le modèle GMF, c'est une des choses qui a réussi dans le système de santé.
Donc, sans les GMF, il y aurait quoi? Il y aurait 2 millions de Québécois sans médecin de famille?
En fait, c'est parce que l'étude, ce qui pousse finalement, c'est le modèle des CLSC. Hein? C'est de dire, finalement, on scrape les GMF, on met ça en CLSC. Les CLSC sont quoi? Sont une gestion publique pour l'accessibilité en première ligne. Moi, ce que je vous dis, c'est que le modèle GMF, c'est pas le Québec qui l'a inventé. C'est un modèle qui est déjà implanté dans le reste du Canada, en Europe aussi. Le Québec l'a mis à sa sauce québécoise. Mm-hmm. Et depuis les années 2000, on a un excellent programme qui s'appelle les GMF. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès à un médecin de famille ou juste un professionnel de la santé, qu'il soit pharmacien, travailleur social, infirmière, pour recevoir les soins qu'ils ont besoin mm-hmm. au moment qu'ils ont besoin. Et c'est là que c'est pas de scraper, je m'excuse du langage, le modèle GMF qu'il faut faire, mais plutôt l'améliorer. Et j'ose espérer justement qu'une des choses qui a été présentée par le gouvernement, là, avec l'entente qui a été entérinée justement aujourd'hui par 84 % des médecins de famille, on était tout le temps en chicane, là, tout d'un coup, on s'entend avec le ministère pour dire, écoutez, il y a des bonnes idées là-dedans, est-ce qu'on peut juste revoir un peu la façon qu'on travaille? On n'est pas capable de cloner les médecins, on n'est pas capable de cloner les infirmières, mais est-ce qu'on peut travailler différemment, ouais. finalement, pour voir les patients quand ils en ont besoin?
Bien, cette entente-là, parlons-en, parce que l'objectif est extrêmement ambitieux. L'entente devrait... L'objectif, c'est de réduire de moitié le nombre de patients orphelins. Donc ça, ouais. c'est dans un an, 500 000 personnes de plus au Québec suivies par un médecin de famille. Comment vous allez faire ça? Okay. Alors que les mesures ne sont même pas obligatoires pour les médecins et il n'y a pas de pénalité pour ceux qui n'y adhèrent pas.
C'est une super bonne question. Donc moi, comme je le dis, je ne peux pas me cloner. Mes médecins ne se cloneront pas et mes infirmières non plus. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il y a une forme de triage qui va s'imposer. Le gouvernement et la fédération se sont entendus pour dire que ce n'est pas normal que si tu as un médecin de famille qui a juste assez le nombre de patients, il va te voir quand tu veux, puis que pendant ce temps-là, il y a plein de monde qui ont besoin de voir un médecin aujourd'hui ou demain, puis qui n'ont pas accès au médecin. Fait que là, on dit non, ça ne marche pas de même. Il va y avoir une infirmière qui va faire un triage. On appelle ça le GAP, le guichet d'accès à la première ligne. Donc, on n'est pas en train... Le nombre d'heures dans la journée, il est pareil. Mais il y a des patients qui peut-être surutilisaient le système, qui vont se faire dire, finalement, t'es moins urgent qu'un autre patient qui, lui, il a besoin de voir le médecin aujourd'hui parce qu'il a de l'eau sur ses poumons, parce qu'il fait de l'angine, des choses comme ça. Donc, c'est une bonne façon d'améliorer l'efficacité du système de santé. Ça ne réglera pas tout, là. Demain, là, il va y avoir encore des urgences pleines. Je travaille dans une urgence, là. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Ça fait bien des années que ça aurait dû être fait.
Bon, puis le ministre nous promet même 250 000 patients pris en charge d'ici juillet. On vous souhaite bonne chance.
Hey, merci
d'avoir été avec nous. À bientôt. Une course avec des véhicules qui roulent avec du carburant vert, ça existe. Notre collègue Olivier Caron a testé l'une de ces voitures. On vous présente son reportage au retour. Le Grand Prix de Trois-Rivières se déroulera en août et il y a une épreuve qui va revenir pour une deuxième année, une course entre des voitures qui roulent avec du carburant vert, de l'essence synthétique sans pétrole. Notre collègue Olivier Caron a pu essayer l'un de ses bolides et il s'est improvisé pilote pour l'occasion.
On est présentement au RPM Speedway à Saint-Marcel-de-Richelieu sur invitation du comité organisateur du Grand Prix de Trois-Rivières. On est venu piloter, tester les voitures du défi urbain Chevrolet qui seront en piste au Grand Prix de Trois-Rivières cet été.
C'est une voiture sportsman. On roule sur terre battue, sur des circuits en ovale. C'est vraiment différent de ce que tu as pu déjà tester. Tu m'as dit que tu as essayé un petit peu le karting. C'est ta seule école. Bien là, c'est vraiment... On va te déboussoler complètement. Ce bolide-là, tu as l'impression que quand tu roules dans les virages, que l'auto veut basculer vraiment à l'envers. Mais c'est pas le cas. C'est juste la suspension qui fait son travail. Rentrer dans les virages de travers, donc sur la drift, c'est là que ça commence à se compliquer. Mais ce bolide-là, vraiment, ça fait tout un spectacle. Surtout ici.
Ça faisait déjà quelques années qu'on songeait à ce projet-là, de trouver une façon au niveau technique d'être capable d'amener des voitures qui sont habiles à tourner sur un ovale de terre juste d'un côté, à tourner des deux côtés sur un circuit routier en asphalte. Ça a été spectaculaire pour plein de raisons. On a mélangé des spécialistes d'ovale de terre avec des gars qui étaient très forts en circuit routier, mais pas habitués dans ces voitures-là. Quand les premiers tours se sont faits, à rentrer à la porte du Plessis à deux, puis peut-être des tentatives à trois de large, ça a donné un super spectacle. Fait que c'est un petit peu tout ça qui rend les choses intéressantes encore cette année.
Sur un petit circuit ici, on pogne peut-être 100 à 120 km/h. Moi, je vais te parler dans tes oreilles. Moi, je suis coach.
C'est vraiment motivant de voir que nos grosses équipes de modifiés, que des équipes de Pintees ou des pilotes de Pintees dire hey, on va aller faire le défi urbain, puis on va essayer d'aller se tirer notre épingle de jeu là-dedans. Puis de les voir venir sur la terre battue dans notre environnement, c'est encore plus le fun là, de voir le mélange de tout ça.
Pour embarquer, on met le pied ici, puis là, on s'accroche avec le toit. C'est fait solide, on peut s'accrocher n'importe où. On embarque le premier pied. Après, on peut s'asseoir sur le côté, puis on embarque le deuxième. Les jambes de chaque côté de la transmission. C'est important, la piste est ultra glissante actuellement. C'est des conditions comme d'après-course. Si tu vois que tu t'en viens trop rapidement, un peu de frein, ça va aider à aller vers l'intérieur. Tu y es d'où? Dans la prochaine ligne droite, je veux que tu me fasses une accélération avec ta pédale de droite. Exact. Tu peux me le refaire encore ici, là, dans le prochain virage. Trois, deux, un, accélère. Vas-y, go, go, go! C'est bon, Oli, c'est fini.
Comme un mélange d'émotions, c'est d'être capable de gérer sa peur, parce que t'as tout le temps peur de l'échapper. Mais le rush d'adrénaline, je veux dire, quand tu réussis à l'accoter dans le fond, c'est incroyable, incroyable.
La Ville de Montréal investit 17 millions de $ pour créer ou mettre à niveau une quarantaine de projets cyclables cette année. L'administration Plante commencera notamment à déployer un réseau express vélo sur le boulevard Henri-Bourassa dans le nord de la ville. Mais des organismes de défense des cyclistes jugent ces mesures insuffisantes. Le collectif Vélo Fantôme Québec dénonce d'ailleurs le nombre élevé de cyclistes morts sur la route l'an dernier. Que fait-on pour assurer leur sécurité? On a posé la question à la conseillère associée au transport actif au comité exécutif.
Oui, dernièrement, en fait, c'est le collectif Vélo Fantôme a commémoré le décès de trois cyclistes. Là. C'est certain que c'est parfaitement inacceptable. C'est pour ça qu'on travaille à faire un réseau qui soit séparé de la circulation, qui soit structurant, qui soit étendu.
Il ne devrait pas avoir un seul décès chez un cycliste, mais il faut aussi voir l'impact de la sécurité sur l'ensemble des blessures et aussi sur comment les gens perçoivent la sécurité et l'impact que ça a sur leur volonté de faire du vélo. Et ça, on a beaucoup de chemin à faire.
bonsoir, Étienne. Alors, ce petit rorqual qui avait été vu dans les eaux du fleuve Saint-Laurent près de Montréal, bien, sa carcasse a été retrouvée.
Oui, bien, selon toute vraisemblance, c'est un des deux rorquals qu'on avait vu autour de Montréal. Là, on a vu ça aujourd'hui. C'est des pêcheurs qui ont retrouvé donc cette carcasse aujourd'hui. On ne sait pas ce qui est arrivé du deuxième spécimen là, qui avait été vu autour de Montréal. Mais dans ce cas-ci, ça serait vraiment un des deux mammifères qui a été vu à Montréal, selon le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins là, qui les suivaient, qui suivaient leur périple. Il était dans notre secteur de manière surprenante.
Bien oui, puis ça nous fait quand même de la peine. Variole simienne, les autorités de la santé publique sont sur le qui-vive. Celles du Québec ont fait le point. Celles du fédéral ont fait le point aussi.
Le fédéral va envoyer plus de vaccins au Québec. Pas de preuve de contamination communautaire, dit le Dr Howard Yu. Il dit quand même, là, aujourd'hui, on comprend que la population est renversée d'entendre ça après la COVID, que maintenant on parle de variole du singe. Mais pour l'instant, il se faisait très rassurant. La contamination est extrêmement limitée, donc une vingtaine de cas. On va en parler avec Benoît Barbeau, le microbiologiste, ce soir. Puis on reçoit également Dr Alain Vadeboncœur, notre collaborateur.
Bien, ce sera très complet. Merci, Étienne.
Merci beaucoup, Nani.
Merci à vous d'avoir été avec nous. À demain, 17 h.